Après nous être arrêtés sur les raisons profondes pour lesquelles Jésus avait changé de type d'enseignement, nous allons commencer à étudier la première parabole du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Nous avions déblayé le terrain, si je puis dire, en passant en revue la méthode de culture pratiquée en Palestine au 1er siècle, afin de bien comprendre l'enseignement que notre Seigneur avait voulu dispenser. Nous sommes prêts à présent à entendre le sens de cette parabole pour nous aujourd'hui. Jésus est à présent seul avec ses disciples et ceux qui désirent comprendre. C'est ce que nous rapporte Marc dans son évangile. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Commençons par nous demander de quelle nature est la graine dont parle Jésus. Que représente-t-elle? Car cette semence n'est bien entendu pas une graine physique, mais ça je crois que vous l'aviez bien deviné. Cette graine représente l'évangile du royaume. Ce fait est confirmé par notre passage dans l'évangile de Matthieu que je prends avec vous maintenant, verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole, c'est avant Nicolas, lorsqu'un homme entend la parole du royaume, donc cette graine dans l'explication que Jésus en donne, cette graine est donc bien la parole du royaume. C'est notre Seigneur lui-même qui, en donnant l'explication de la parabole, identifie la semence comme étant la parole du royaume. La semence est donc le message concernant le roi et son royaume. Le récit parallèle que l'on trouve dans l'évangile de Luc est lui encore plus explicite, puisque Luc nous dit « la semence, c'est la parole de Dieu ». Difficile de faire plus clair, me semble-t-il. Alors, sachant cela, on peut affirmer sans risque de se tromper que le semeur représente quiconque sème l'évangile par la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Ce fait sera d'ailleurs confirmé des années plus tard par l'un des auditeurs privilégiés de l'explication donnée par Jésus, en l'occurrence Pierre, qui écrit en 1 Pierre 1, 23-25 « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Pierre se souvenait donc très bien que son maître lui avait enseigné cette parabole et son sens profond. La semence qui donne la vie éternelle, nous dit Pierre, n'est donc pas une semence physique issue de ce monde terrestre. Ce serait merveilleux qu'il suffise de prendre une graine et de l'avaler. Mais bien une semence spirituelle issue de la sphère céleste, puisque l'évangile du royaume a son origine en Dieu lui-même. Cette semence, c'est la parole de Dieu, le premier des semeurs étant bien entendu notre Seigneur lui-même, puisqu'il est le premier à avoir semé cette semence. La semence est vraiment une très bonne image de l'évangile. En effet, tout comme la semence, l'évangile ne peut pas être créé, seulement reproduit. En effet, la dissémination de l'évangile consiste à prendre ce qui a été planté et reproduit pour le replanter à nouveau. Dieu ne nous demande pas de créer notre propre semence ou message, car sa parole est l'unique bonne semence. Et à ça, nous devons faire excessivement attention. Parce que ça signifie que l'évangélisation n'existe pas en dehors de la parole de Dieu. Il nous faut donc être très prudent de ne pas inventer, et on le fait plus vite qu'on ne pense, un autre évangile, de ne pas semer une semence de notre invention, car les conséquences seraient désastreuses pour nous et pour les autres. C'est ce que Paul dit aux Galates, l'église de Galates, l'église de Galatie en Turquie actuelle, qui avait de gros problèmes en termes d'évangile. Voilà ce qu'il dit. « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Si quelqu'un, même nous, revenions vers vous en plantant une autre graine, une autre semence que celle que nous avons semée jusqu'ici, vous devrez nous maudire. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maudit par qui? Maudit par Dieu. Anathème dans le grec. Dès les premiers temps de l'Église, dès le premier siècle, d'autres évangiles, gnostiques, judaïsants, tentèrent de pénétrer l'Église. Paul et les autres apôtres durent lutter durant toute leur vie contre ces contrefaçons. Alors j'aimerais vous dire que ce combat est terminé, que cette lutte est finie. Non. Parce que ça n'a jamais arrêté et ça continue encore aujourd'hui. Ce que la parabole exprime clairement, c'est que le problème ne vient pas du semeur, ni de sa semence, ni de sa méthode d'ensemencement, ni même de la composition du sol. Ce qui pose problème pour la réception de la semence, c'est la condition du sol. Autrement dit, la composition du sol est bonne, je vais expliquer ça dans un instant, mais pas sa condition. Parlons du sol, justement. Le sol de notre parabole représente le cœur humain. C'est ce que notre Seigneur confirme lorsqu'il donne justement l'explication de la parabole. En Matthieu 13, verset 19, « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. » Le sol, c'est donc notre cœur, ou le cœur de celui qui est ensemencé. Ainsi, le cœur de l'auditeur est semblable sur le plan spirituel au sol qui reçoit la semence du semeur. Je l'ai dit, la composition du sol est bonne, mais pas sa condition. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que la composition de base de tous les terrains mentionnés dans la parabole est la même. Tous les sols sont constitués de terre. La terre du champ est identique à celle autour du champ, qu'elle soit dure, molle, peu profonde ou recouverte de mauvaises herbes. La différence, car différence il y a, entre les terrains, se situe plutôt dans la façon dont ils ont été préparés. En effet, tous les terrains pourraient, dans l'absolu, recevoir la parole s'ils étaient adéquatement conditionnés. Donc ce qui apparaît, c'est que le sol non préparé ne pourra jamais porter de fruits. En conservant l'analogie, il semble que notre Seigneur veuille nous dire qu'il en va de même avec le cœur humain, qui, je le rappelle dans le langage biblique, est le siège de l'intellect, mais aussi des sentiments et des émotions. Tout ce qui constitue l'homme, ce terme désigne donc, plus largement encore, l'homme intérieur. Tout comme le sol de notre parabole, la nature de tous les hommes est identique, mais conditionnée différemment, suivant les diverses influences que nous avons subies. Nous trouvons là, à mon sens, un point important de la leçon spirituelle de la parabole. La réponse d'une personne à l'Évangile dépend tout d'abord de la préparation de son cœur. Un cœur qui n'est pas préparé de façon adéquate ne portera pas de fruits spirituels. Voilà pour ce qui est de la condition du sol. Passons maintenant aux différents sols de notre parabole. Le premier sol, si je puis dire, c'est le cœur, puisqu'on sait maintenant l'identifier comme étant le cœur, c'est le cœur dur et indifférent. Le sol du bord du chemin, voilà, dans ce petit fameux sentier là, qui délimitait les différents champs, et où passaient les gens, etc., où la semence ne pénétrait pas. Ce sol, donc, représente un cœur endurci et indifférent. Reprenons l'explication qu'en donne Jésus. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin, sur ces fameux sentiers. Un tel individu a le cœur dur, à l'instar du terrain qu'il représente. Dans le livre des Proverbes, on parle beaucoup des cœurs durs qui se ferment à la sagesse. Il est dit dans les Proverbes qu'un tel homme raidit le cou, il se braque. Un tel être est donc indifférent, insensible, inattentif, pas intéressé et même souvent hostile. Il ne veut rien savoir de l'Évangile. L'oiseau vorace, qui plane au-dessus du sol dur, du chemin, est identifié par Jésus dans son explication de la parabole à Satan lui-même, prêt à s'emparer de la semence dès qu'elle tombe. Luc donne clairement le sens de cette image, elle représente ceux qui ne sont pas sauvés. Je prends ce texte dans Luc 8, verset 12. Merci Nicolas. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis vient le diable et qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils l'enlèvent, ils ne croient pas et ne seront donc pas sauvés. Retenez ça, c'est important, j'y reviendrai, mais c'est important. Donc, en détruisant la semence, pour tous ceux qui penseront encore parmi nous qu'on n'a pas vraiment d'ennemis, hein. En détruisant la semence, le diable empêche ses hommes et ses femmes d'être sauvés purement et simplement. Notre Seigneur nous avertit que le cœur humain peut être endurci par le péché à un tel point qu'il devient totalement insensible à l'Évangile. Un tel cœur est incapable de repentance, de remords pour les péchés commis, de tout sentiment de culpabilité ou de soucis véritables concernant les choses de Dieu. Ce genre de cœur se laisse piétiner, pour reprendre l'image, par une suite sans fin de pensées mauvaises, de péchés entretenus et d'activités impies. Ce cœur-là est dur, sans pitié, indifférent, jamais contrit ni adouci par la conviction ou la peine d'avoir mal agi. C'est le cœur de l'insensé tel qu'il est décrit dans le livre des Proverbes. Il déteste la connaissance, refuse l'instruction et méprise la sagesse. Il se dit en lui-même qu'il n'y a pas de Dieu. Il se refuse à entendre quoi que ce soit car son esprit est fermé et il n'a que faire de l'invitation de Dieu contenue dans l'Évangile. Ces gens-là existent, mes amis, ne nous leurrons pas. Je ne voudrais pas passer pour un pessimiste, mais ces personnes sont nombreuses. Les personnes ayant ce genre de cœur sont nombreuses. On peut les recouvrir de semences, rien n'y fait. Celle-ci reste là sans prendre racine, et bientôt le diable passe et s'empare de la semence. Et chaque fois que l'on veut témoigner de sa foi à nouveau à ces personnes, il faut tout recommencer, tout reprendre du début, parce que rien, mais vraiment rien, n'a percé. Petite parenthèse, vous vous rendez bien compte dès à présent que pour avoir l'analyse des cœurs qui sont en face de nous, il faut semer, hein, et pas semer un petit peu, hein, il faut semer beaucoup pour commencer à discerner, bien entendu. Alors j'aimerais préciser une chose importante, pour ne pas être mal compris. Le sol dur et sec du bord du chemin ne représente pas forcément des athées ou des gens ne croyant pas en Dieu. Certaines des personnes les plus dures au monde pratiquent une religion. Même parfois, ça c'est à pleurer, même parfois la religion chrétienne, tout en vivant en marge de la véritable foi en Christ. Car du fait que le péché a endurci leur cœur, elles sont entièrement improductives et insensibles à la voix de Dieu. Car lorsqu'on y réfléchit, et je vais peut-être pousser un peu loin un détail de la parabole, ce que j'ai souvent qu'il ne faut pas faire, mais je vais le faire. Le sol dur est très proche du bon sol, de la bonne terre en termes de proximité. Quand le semeur sème dans son champ, rappelez-vous, des deux côtés du champ, il y a des sentiers qui le bordent, où tombe la semence. Et elle tombe pourquoi ? Parce qu'elle a une grande proximité avec le semeur. Elle est systématiquement arrosée de semences, même si ce n'est pas l'objectif. Les semences tombent bien dans ce champ-là, dans ce sentier-là. Il n'est quasi pas possible qu'ils n'en reçoivent pas, vu sa proximité avec le semeur. Ce qui pourrait vouloir signifier que ces personnes sont proches de la vérité, sans s'ouvrir pour autant à elles. Elles reçoivent et reçoivent encore de la semence, mais ces grains ne peuvent pas prendre racine. Et qui d'autre que des personnes fréquentant les églises sont susceptibles d'être autant ensemencés, recevoir autant de semences. Ce terrain me paraît pouvoir correspondre aussi, entre autres, aux personnes se pensant chrétiennes par tradition et culture et ne l'étant pas. Il n'y a pas de monopole de la dureté de cœur, elle peut aussi se retrouver dans les milieux ecclésiaux ou religieux. Rappelez-vous ce que Paul dira, examinez-vous pour voir si vous êtes dans quoi ? Dans la foi. Examinez-vous pour voir si objectivement vous avez la foi qui sauve. Alors pour s'en convaincre, il n'y a qu'à penser aux pharisiens qui venaient justement de se fermer à la semence que notre Seigneur désirait semer dans leur cœur. Juste avant l'épisode des paraboles, je vous ai tout expliqué tout ça en long, en large et en travers, il y a cette rencontre encore une fois avec les autorités religieuses qui avaient encore une fois entendu l'enseignement de Jésus et qui s'étaient fermés à cet enseignement. Parce qu'à réflexion, ça ne m'était pas vraiment venu jusqu'ici. Hormis les disciples, les plus proches. Ce sont les pharisiens que notre Seigneur aurait le plus tenté d'enseigner. C'est eux, à force de venir le chercher, si je puis dire, qui auront le plus entendu Jésus leur dire des choses concernant le royaume de Dieu. Jusqu'à ce fameux moment où il leur dira que c'est terminé, qu'il s'en va vers d'autres qu'eux. Venons-en à notre deuxième terrain, qu'on pourrait qualifier de superficiel, le cœur superficiel. Matthieu 13, 20-21. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Le sol peu profond, car rappelons-le, le calcaire affleurait à la surface du sol, est donc l'image d'un cœur superficiel. Un cœur de ce type est enthousiaste, c'est vrai, mais superficiel. Il répond positivement à l'invitation de Christ, mais pas avec la foi qui sauve. Il ne réfléchit pas, il n'estime pas le coup, il s'emballe, tout à l'euphorie des sentiments du moment, mais ne possède aucune compréhension véritable de la vie de disciple. Il n'a tout simplement pas une foi authentique. Alors cette façon superficielle de répondre à l'Évangile a pris des proportions épidémiques durant la fin du XXe siècle. On y est encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Évangile a généralement été présenté à grand renfort de promesses concernant la vie chrétienne, une vie uniquement remplie de joie, de sentiments chaleureux, de communion et de bien-être, sans que la difficile question et condition de prendre sa croix et de suivre Christ ne soit pas mentionnée. Dans cette version soft de l'Évangile, on ne présente pas les questions pourtant essentielles relatives au péché et à la repentance aux soi-disant convertis. On les encourage plutôt à suivre le mouvement, à chanter des cantiques et à attendre le meilleur de cette nouvelle vie que Dieu leur donne. Mais mes amis, la réalité est tout autre si on se focalise sur cette parabole. Sous la mince couche supérieure, apparemment fertile, puisque rappelez-vous, il y a quand même des feuilles qui vont pousser, il reste une couche impénétrable de rébellion et de résistance aux choses de Dieu. La véritable repentance est absente, tout comme le sont forcément l'humilité et la contrition d'un cœur ouvert devant Dieu. Tous ces éléments-là n'y sont pas. Donc il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de foi. Le roc de rébellion qui est sous la surface meuble est plus dur encore que le sol du bord du chemin, parce que le sol du bord du chemin, il est dur, mais c'est de la terre encore. Ici, ce n'est pas de la terre, c'est de la pierre. Les conséquences éternelles sont tragiques. L'enthousiasme des débuts n'était qu'une émotion d'un moment, et la semence qui avait commencé à prendre racine meurt rapidement. Ces personnes ne sont pas sauvées, elles non plus, comme le dit si justement l'apôtre Jean. Je vous repasse ce passage, 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, il parle de l'Église, hein, donc ce sont des gens qui étaient dans l'Église, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Je vais vous faire un aveu, ça m'arrive hein, parfois. De telles personnes constituent l'une des plus grandes déceptions dans le ministère, parce qu'elles bouffent un temps infini. J'ai passé des heures innombrables à titre personnel à encourager et accompagner de telles personnes. Dans un premier temps, je me suis réjoui, parce que leur foi semblait animée d'un réel enthousiasme. Ils sont très enthousiastes. Donc, objectivement, visiblement, on se dit « Waouh, il se passe quelque chose de terrible, hein, génial !» En y pensant, je dois même admettre qu'en comparaison, leur foi et leur engagement paraissaient même plus forts que ceux d'autres personnes fidèles depuis des années. Ils paraissaient plus rentre-dedans. Puis vient le temps inévitable des difficultés, parce que ça finit par arriver, des choix à faire, des renoncements par amour pour Dieu. Il faut renoncer à des choses par amour pour Dieu. Et comme les racines sont quasi inexistantes, ces personnes se flétrissent et disparaissent. Et comme le dit Jean, ils ne sont plus avec nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Un autre aspect de cette vérité, néanmoins, l'assurance réconfortante que la souffrance, l'opposition et la persécution jouent un double rôle, ou un triple rôle même important, dans le royaume de Dieu. D'une part, ces épreuves exposent au grand jour ceux qui ne sont pas de véritables croyants, et d'autre part, elles fortifient les véritables croyants, car leur foi ayant tenu face aux épreuves, ils sont confortés dans l'assurance qu'ils font bien partie de la famille de Dieu. C'est pour ça que la notion d'épreuve est fort mise en avant dans le Nouveau Testament, par Jacques, par Pierre. Jacques ira même jusqu'à dire, c'est le début de son épître, hein, disons Jacques, il faut être en forme pour lire Jacques quand même, hein, c'est un peu, c'est très direct. Hein. Mais Jacques qui dit, mes frères, acceptez, accueillez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves que vous pouvez endurer. Pourquoi ? Parce que si vous passez à travers ces épreuves, ça veut dire que votre foi est réelle. Et votre foi va grandir à cette épreuve. Et la suivante épreuve qui viendra, votre foi sera à nouveau affermie, davantage, et elle grandira de plus en plus, parce que vous aurez appris à vivre ces épreuves avec le Christ. J'ai dit dans un message, mais c'est vrai, c'est terrible, mais la souffrance est indissociable dans notre monde, malheureusement. Mais d'un autre côté, on peut la positiver dans le sens où elle est nécessaire à l'expertise de notre foi. Si on n'a jamais des coups durs, on ne peut pas savoir. Objectivement, vraiment, hein, on ne peut pas savoir. Et ceux qui lâchent, et ce n'est pas un jugement, c'est comme ça, c'est ce que Jésus dit, ceux qui lâchent, ben, il faut en tirer les conséquences. Les gens qui maudissent Dieu, les chrétiens qui maudissent Dieu chaque fois qu'il y a une tuile qui tombe sur leur tête, c'est plus que problématique. Il faut donc se méfier, d'abord pour les personnes en question, hein, pour ne pas être dupes et pouvoir éventuellement les aider. Il faut donc se méfier des conversions qui ne sont que sourire et réjouissance, dénuées de tout sentiment de repentance ou d'humilité, car elles dénotent, nous dit Jésus, un cœur superficiel. Il manque en effet à celui qui possède un tel cœur les racines nécessaires à la survie lorsque les temps sont difficiles. Et croyez-moi, les temps sur cette terre sont souvent difficiles. Si une profession de foi en Christ ne provient pas d'une conviction profonde d'être perdu, si elle n'est pas accompagnée d'une conviction intérieure de péché, si elle n'inclut pas le vif désir d'être régénéré, changé, on n'en peut plus, on n'en veut plus de ce qu'on est. Si on ne veut pas être purifié et guidé par le Seigneur, si le désir de se renier soi-même, d'effectuer les sacrifices nécessaires, de souffrir pour Christ en est absent, cette profession de foi n'est pas adéquatement enracinée. Tôt ou tard, croyez-moi, croyez plutôt Jésus, la plante mourra. Passons à présent à notre troisième terrain, notre troisième cœur. On pourra appeler le cœur attaché aux choses de ce monde. Ça aussi, on a un paquet. Hein. Matthieu 13, verset 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les bons ou les mauvaises herbes, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Vous savez comme moi qu'il y a bien, il y a bien des choses en ce monde. Hein. Il y a beaucoup de choses en ce monde. Et nombreuses de ces choses sont bonnes puisqu'elles font partie de la création. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu après chaque étape de la création ? Et Dieu dit, voici, cela est très bon. Ou est bon, et puis quand il fait, alors, cela est très bon. Le danger, c'est lorsque des choses, même essentielles et légitimes, toutes ces choses que Dieu veut nous donner en plus, remplacent Dieu, prennent la place de Dieu, occupent la première place. Une telle personne, nous dit Jésus, est uniquement préoccupée par le siècle présent, par le monde. Le but principal d'un cœur tel que celui-là, c'est sa maison, sa carrière, sa voiture, sa garde-robe ou son hobby préféré. Alors des personnes telles que celles-là peuvent très bien, elles aussi, fréquenter une église ou l'autre, manifester certains signes de croissance, mais elles ne portent jamais de fruits. Elles ne sont pas engagées à la suite de Christ car elles sont trop préoccupées par les plaisirs qu'offre le monde, l'argent, leur carrière, leur statut personnel, leur famille, leur fortune, et les plaisirs, tous les plaisirs que produit la nature humaine. Elles se disent chrétiennes, mais ne veulent pas de la vie que propose Jésus. Elles veulent leur vie à elles. Éventuellement, saupoudrer un peu de Dieu quand les choses vont un peu plus mal. Parce que Dieu doit forcément les sortir de tous les guépiers dans lesquels elles se sont mises, ces personnes. Le cœur de ces personnes, dit Jésus, finira étouffé par les racines de l'amour pour ce que ce monde déchu offre et qui est, et je recite Jacques, je le rappelle, haine, c'est les termes de Jacques, haine contre Dieu. Rappelez de ce texte de Jacques, Jacques 4, 4, c'est facile à retenir comme référence. L'amour du monde est inimitié, autrement dit haine contre Dieu. Vous aimez le monde, ça veut dire que vous détestez Dieu. Alors, quand je dis détester le monde, ce n'est pas les gens qui occupent le monde. Hein. Ce n'est pas ça, qui vivent dans le monde. Hein. Le monde, c'est toutes les valeurs, c'est tout ce que nous sommes, que nous produisons en termes de nature humaine pure, sans Dieu, et qui produit des valeurs qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu. Il est possible que les cœurs remplis d'épines soient prêts à accepter Jésus comme sauveur, ça, ce n'est pas le problème, mais pas s'il leur faut abandonner les choses du monde. Et ça, vous l'aurez compris comme moi, ça, ce n'est pas le salut. L'apôtre Jean le rappelle dans sa première épître. Je lis le texte, il n'est pas là, Nicolas, donc je le lis. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, il énumère, hein, mais on est en plein dedans. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, dit Jean, le monde passe. Il aura une fin, ce monde. Sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. J'essaie de résumer en deux, trois mots ce que nous venons de dire jusqu'ici. Dans cette parabole, les épines, le soleil et les oiseaux représentent nos ennemis. On les a identifiés, nos ennemis. Les épines sont les soucis du temps présent et la séduction des richesses. Le soleil qui brûle les plantes sans racines suffisantes, représente une épreuve, une persécution, ou même, je dirais jusqu'à dire, un choix à faire, qui menace le confort dans lequel se complaît notre nature propre. Et enfin, les oiseaux représentent Satan, qui s'efforce constamment de voler la semence de l'Évangile avant même qu'elle ne puisse prendre racine. Ce sont là les trois ennemis perpétuels de l'Évangile. On a tendance à les oublier, c'est pour ça que je les rappelle. Les trois ennemis de l'Évangile sont le monde, la pensée du monde, et faites attention en tant que chrétien de ne pas être pénétré, que vos pensées ne soient pas pénétrées par ces pensées-là. Et ça va très vite. On est très vite influencé par ce qui se dit autour de nous. Et on finit par mélanger ça avec l'Évangile. Donc le premier ennemi, c'est le monde. Le deuxième, notre nature propre, ce que notre nature pécheresse est capable de produire. Et bien entendu, le diable. Il y a ici une importante leçon à tirer, en tout cas pour le semeur. Pour celui qui sème. C'est quand même le personnage central de cette parabole. Et cette chose à tirer, c'est qu'il devra faire face à une résistance et à de l'hostilité, que ce n'est pas une sinécure d'être un semeur. Il devra s'attendre à des conversions superficielles et de courte durée. Il va peut-être se réjouir pendant 10 minutes et puis se lamenter pendant plusieurs heures. Il rencontrera des personnes qui voudront le beurre et l'argent du beurre, des gens qui voudront être sauvés par Christ tout en gardant et recherchant les choses du monde. Le semeur aura donc du mal à obtenir une bonne récolte à cause de la dureté du cœur, du sol, pardon, du manque de profondeur de la couche arable et de la vigueur des épines. Et on peut croire que c'est vrai puisque c'est Jésus qui le dit. Et puis, encore une fois, par rapport à l'événement qui précède les paraboles données dans Matthieu 13, on peut dire que Jésus était lui-même confronté à cette réalité de ces différents terrains. Mais, c'est un mec pour une fois qui est positif, mais le semeur ne doit pas perdre courage. Le Seigneur de la moisson est capable de briser même le plus dur des sols et d'éliminer les plus vigoureuses épines. Les sols durs, peu profonds, remplis d'épines, ne demeurent pas forcément toujours ainsi. C'est là qu'il faut du discernement et semer abondamment. Pour obtenir, apprendre à avoir ce discernement. D'ailleurs, c'est intéressant, l'une des anciennes méthodes d'agriculture en Palestine consistait justement à jeter la semence, puis à labourer par-dessus jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le sol. En étant conscient que le sol est mauvais, on laboure dessus et puis on sème et puis on laboure dessus. Et l'évangélisation, ça ressemble parfois à ça, à l'application dans la vie d'évangélisation d'une telle méthode. Il est néanmoins parfois aussi décourageant de penser qu'il y a trois sortes de sols stériles. Focalisons-nous plutôt sur le bon terrain. Parce qu'il y en a qui représentent un cœur réceptif. Donc en résumé, ne vous découragez pas si c'est dur. Il faut parfois insister et persévérer. Et puis, réjouissez-vous aussi que de temps en temps, ça rentre tout seul. Bon, ceux-là, je ne les ai pas beaucoup croisés. Je vais être honnête avec vous, mais bon. Passons justement au cœur réceptif. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Ah, alléluia. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Ce verset est le point culminant de la parabole. C'est en fait une promesse faite aux disciples découragés, les assurant qu'on peut trouver de la bonne terre, que cela existe. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont découragés? Parce qu'ils viennent d'entendre les pharisiens attribuer à leur maître un exorcisme qu'il aurait fait avec la puissance du diable. Il a très bien compris qu'ils se sont fermés. Et les disciples ont bien compris qu'ils se sont fermés à la parole de leur maître. Autrement dit, ils ont se dit, s'ils se ferment à sa parole à lui, ben nous c'est foutu quoi. Le monde n'entendra rien. On sait que c'est faux. Hein. Premier discours de Pierre, la Pentecôte, 3000 convertis. Merci Seigneur. Donc les disciples avaient besoin d'être encouragés. C'est la fin de la parabole, en parlant de ce bon terrain, qui accueille l'évangile avec joie et profondeur, ça a dû rassurer un petit peu les disciples. On va en prendre plein là, et ça va être hyper dur, mais il y en a quand même qui entendront et qui deviendront aussi des disciples du Christ. Il ne faut donc pas se laisser décourager ni impressionné par la réponse négative de certains. Car souvenons-nous que le champ de la moisson est immense, c'est ce que Jésus dit, et cultivé, préparé, mis en condition. Ou sinon, la moisson ne serait pas grande. Ce terrain-là, il est prêt à recevoir la semence. Il attend le semeur. Et est surtout prêt à, dit Jésus, porter du fruit. Alors, pour terminer, venons-en aux fruits. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la production de fruits est le but de l'agriculture. Aucun semeur, aucun agriculteur n'ensemence son champ ou ses arbres fruitiers, enfin peu importe, en espérant que ça ne donne rien. S'il en existe des comme ça, il y a Titeka. J'ai pris celui-là parce que ça rime. Non, vraiment, hein. Donc, quelqu'un qui prêche l'évangile, qui enseigne l'évangile, qui partage sa foi et l'évangile, ben, il ne le fait pas pour que ça ne donne rien. Il espère que ça va donner du fruit. Et c'est aussi important, le fruit est d'autant plus important dans ce que dit Jésus, c'est que le fruit est aussi le test ultime du salut. La seule preuve que vous pouvez avoir que quelqu'un est bien un véritable enfant de Dieu, c'est les fruits qu'il porte. C'est l'engagement envers son Dieu qu'il a. La vie qu'il mène. Et Jésus en parle très bien dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 7. Il répond ça suite à une question des disciples. À quoi va-t-on reconnaître ceux qui croient en toi? Et Jésus répond, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Ce n'est pas au blabla, non, non, c'est à leurs fruits. Alors, vous pouvez déjà penser aux fruits de l'esprit en Galates 5, 22. L'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, etc., la maîtrise. Mais il y en a d'autres. Hein. Alors, ce que Jésus dit est limpide. On n'aime pas trop, me semble-t-il, quand Jésus est limpide, parce que c'est trop clair. Et on ne peut pas vraiment tourner autour pour éviter l'enseignement qu'il donne. On aimerait bien que souvent Jésus soit plus compliqué. Souvent, il est très clair. C'est bien ça qui nous dérange. Comme disait Mark Twain, vous rappelez le grand romancier et écrivain américain du 19e, Quand je lis la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas qui me perturbe le plus, c'est ce que je comprends trop bien. Que dit Jésus ? S'il n'existe aucun fruit spirituel, ou si le fruit de la vie de cet homme ou de cette femme est mauvais, c'est parce que l'arbre est mauvais. Ou pour revenir à la métaphore du champ, si le sol ne produit pas de récolte, il n'est que de la terre sans valeur, le symbole d'un cœur non régénéré, non racheté, non sauvé. Si l'on prend la parabole au pied de la lettre, sur les quatre terrains ensemencés, un seul est bon, un seul produit du fruit, un seul a de la valeur pour l'agriculteur. La bonne terre ici, vous en doutiez, représente donc le véritable croyant. Le terrain rempli d'épines et celui peu profond symbolise les hypocrites. Le bord du chemin représente ceux qui ne veulent rien savoir de l'Évangile. C'est donc le fruit dans la parabole, et non la verdure, parce que la verdure y a parfois, qui est la marque du véritable salut. Et si on ne prend pas conscience de ce détail, si on ne le comprend pas, le sens de la parabole est perdu. En effet, je reviens à ce que je disais en introduction, on a abondamment tenté ces dernières années de démontrer que le sol peu profond ou celui rempli d'épines représente des chrétiens véritables, quoique non productifs, qu'on peut être chrétien et ne pas produire. Peut-être que ces théologiens se sont laissés influencer par le fait qu'en voyant ce qui se passait dans les églises la plupart du temps, ils se sont dit « c'est pas possible qu'il y ait aussi peu de fruits ». Donc ça veut sans doute vouloir dire parabole en main, ben que ces chrétiens sont vraiment sauvés, même s'ils n'en touchent pas une. Ce n'est pas ce que j'ai dû dire. Je pense vraiment que c'est une erreur gravissime d'enseigner ça. Tout simplement parce que dans cette parabole, la semence ne symbolise pas la vie éternelle, mais le message de l'Évangile, la parole. La pousse des racines de la semence dans le sol peu profond et dans celui rempli d'épines signifie simplement que la parole avait été reçue et avait commencé à agir et non pas que la vie éternelle a été accordée. Vous savez que la parole est indispensable à la conversion. La parole est prêchée et elle fait son chemin jusqu'à un certain stade chez certains avant d'être éradiquée. Donc il ne faut pas comprendre le sens de la semence. La preuve du salut n'est pas le fait d'écouter la parole, ni de répondre de façon émotionnelle à la parole, ni même de cultiver la parole de façon à ce qu'elle grandisse dans notre vie. La preuve du salut, dans la parabole, c'est le fruit. La manifestation des fruits est donc le test suprême du salut, indépendamment de ce que tout le monde peut dire. Donc lorsque vient la récolte, le terrain rempli d'épines n'est pas meilleur que le sol dur ou peu profond. Ils sont tous inutiles. Il n'y en a aucun qui donne du fruit. Aucun des trois. La semence y est semée, donc la parole, est perdue. Et le sol n'est plus bon à ce moment-là. C'est dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça, en faisant référence à cette métaphore aussi. Et dans ce cas-là, le sol n'est plus bon qu'à quoi ? Qu'à être brûlé. Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'il ne donne rien. Vous serez d'accord avec moi pour dire sans doute que ce n'est pas véritablement une image du salut, qu'un champ improductif qui ne porte pas de fruits. Et je termine vraiment. Il est également intéressant de remarquer que les bons terrains ne produisent pas tous de la même façon. L'un donne 100, l'autre 60 et l'autre 30. Le rendement n'est pas le même. Ça veut dire que les chrétiens ne produisent pas tous autant de fruits qu'ils devraient ou le pourraient. Cependant, tous produisent un certain fruit. Alors, vous savez très bien comme moi que les chrétiens désobéissent parfois et ne sont bien entendu pas exempts de péché, mais en fin de compte, ils se reconnaissent à leurs fruits, comme le dit Jésus. Et le fruit spirituel des véritables croyants, qu'il s'élève à 100, à 60 ou à 30, les distingue du sol dur, du sentier, ou du sol rempli de mauvaises herbes. On voit la différence. Ils produisent chacun une quantité différente de fruits, mais néanmoins, tous portent du fruit à un degré ou à un autre. C'est donc cette capacité à porter du fruit qui distingue nettement le bon terrain de ceux qui sont pierreux, épineux, ou stérile. Et j'aimerais dire en terminant que le plus beau fruit apporté en rapport direct avec cette parabole, c'est probablement de devenir un semeur à son tour. Non ? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.